Je vous invite à vous tourner avec moi dans l'évangile de Luc, au chapitre 23. Il se trouve qu'on est. On vient de passer la fête de Pâques et que nous continuons à réfléchir sur cette époque dans la vie. Et là, on arrive à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 23, on est donc bien avancé dans la semaine de la Passion. La veille, Jésus a célébré la Sainte Cène avec ses disciples. Il a été trahi par Judas. Après avoir prié dans le jardin de Gethsémané, le pressoir à Olive, là où il a subi une terrible pression, une terrible tentation de la part de l'ennemi. Et puis, une fois arrêté, il a été trahi ou du moins renié par un de ses plus fidèles disciples, Pierre, qui le suivait d'un peu loin et qui surtout présumait de ses propres forces, qui pensait qu'il était très fort et qu'il pouvait accomplir ce qu'il décidait. Et ça, c'est toujours un rappel que nous devons vraiment dépendre du Seigneur, moment par moment, après moment. Nous avons tellement besoin de lui. Seigneur, j'ai besoin de toi à chaque moment, à chaque instant. J'ai besoin de lui. Et bien souvent, les épreuves de la vie, ce sont des épreuves qui nous conduisent à ne plus dépendre de nos propres forces. Nous pouvons nous sentir forts lorsque nous sommes jeunes, en pleine santé, que nous avons des moyens d'existence confortables. Mais nous savons tous que du jour au lendemain, ces choses peuvent nous être reprises. Et il est merveilleux de savoir que il est tout ce dont nous avons besoin lorsque nous n'avons plus rien. C'était une phrase de Corrie ten Boom, cette Hollandaise qui avait été dans les camps de concentration et qui avait survécu. Et on a l'impression qu'il nous faut beaucoup de choses pour vivre. Mais Jésus, dans le sermon sur la montagne, nous a dit de nous soucier d'abord du royaume de Dieu et que toutes les autres choses nous seraient données en plus. Et tant qu'on n'en a pas fait l'expérience, on veut bien le croire intellectuellement, mais on est un peu dans le doute. Et donc ce Pierre le renie, et Jésus, on sait, va le pardonner. Et Jésus a comparu devant le Sanhédrin pendant la nuit, ce qui était totalement illégal. Le Sanhédrin, c'était une assemblée des chefs religieux qui avaient la charge des affaires religieuses d'Israël pendant l'occupation romaine. Les Romains étaient des soldats ou des politiques très habiles. Ils prenaient le pouvoir, mais ils laissaient quand même quelques miettes aux gens qu'ils occupaient. Et on va voir que c'est ce qui se passe lorsque Jésus va comparaître devant différents magistrats que l'on connaît bien, si on est chrétien depuis quelque temps. On va lire ensemble à partir du verset 1 du chapitre 23, Luc 23, 1. Ils se levèrent tous ensemble et conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser en disant « Nous avons trouvé celui-ci qui incitait notre nation à la révolte, empêché de payer l'impôt à César, et se disait lui-même Christ, roi. » Pilate l'interrogea en ces termes « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistèrent et dirent, il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. Quand Pilate entendit cela, Il demanda si cet homme était galiléen. Ayant appris qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsqu'il vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis quelque temps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait lui voir faire quelques miracles. Il l'interrogea assez longuement, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec véhémence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Nous allons nous arrêter là pour expliquer un peu de qui et de quoi il s'agit. Tout d'abord, on a donc deux... Lorsqu'il est question de qu'ils se lèvent tous ensemble, ce sont les chefs religieux, les juifs, qui viennent de décider que Jésus avait blasphémé et qu'il devait mourir. Leur problème, c'était qu'ils étaient occupés par les Romains, par l'Empire romain, et ils n'avaient pas le droit de mettre à mort eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas passer quelqu'un par les armes et mettre à mort la personne. Ils devaient en référer à l'autorité d'occupation, les Romains. Ces Romains étaient représentés dans la région par un dénommé Pilate, ou Ponce Pilate, qui était ce qu'on appelait un procurateur ou un gouverneur. Pendant longtemps, on a connu ce nom de Pilate ou de Ponce Pilate par la parole de Dieu, par les évangiles justement. Et même dans ce qu'on appelait le credo de l'Église catholique, qu'on récitait à chaque réunion, chaque messe, on parlait de lui. Il est super, son nom a été prononcé des millions de fois par nos frères et sœurs chrétiennes depuis cette époque. Et pourtant, il occupait un poste qui n'était pas spécialement glorieux. Il y avait des centaines d'autres personnes qui avaient sa position hiérarchique dans l'Empire romain. Mais il est grandement célèbre. Et certains, justement, disaient qu'en fait, c'était raconté dans la Bible, mais qu'il n'y avait aucune preuve historique de son existence. Et généralement, lorsque vous entendez ce genre de critique, dites aux gens qui critiquent la parole de Dieu d'attendre un peu. En fait, il a fallu attendre 1961 pour que quelqu'un, en faisant des fouilles du côté de Césarée Philippi, je crois bien, tombe sur un rocher avec sa pioche. En fait, ce n'était pas un rocher, c'était une inscription qui venait d'un bâtiment. Et sur cette inscription, on voyait, il y avait les caractères Tus Pilate. Et suivez, son existence historique a été prouvée autrement que par le texte biblique en 1961 seulement. Elle était là tout au long de l'histoire, bien sûr, mais encore une fois, c'est toujours la Bible qui a raison. Pourquoi ? Parce que la Bible est la vérité, et si elle l'est vraiment, c'est les autres qui ont tort lorsqu'ils la contredisent. Et ce dénommé Pilate, il est resté représentant du pouvoir romain dans cette région du monde pendant 12 ans, ce qui était assez long. C'était quelqu'un de malin, mais c'était aussi quelqu'un de très dur, un personnage sanguinaire qui n'avait pas de pitié et qui voulait à tout prix préserver son poste. C'est un peu comme aujourd'hui si un ministre de l'Intérieur devait faire face à des émeutes à Paris et que ça dure trop longtemps, on changerait de ministre de l'Intérieur. Et là, il avait un passé avec le peuple juif qui n'était pas très, très prometteur. Lorsqu'il s'était installé, il n'avait pas hésité à faire parader ses troupes avec l'insigne représentant César. Or, pour les Juifs, il n'y avait qu'un seul roi, et ce roi, c'était Dieu. Et donc, il ne voulait pas que on mette l'effigie d'un autre personnage. C'était contraire à leur foi. Et Pilate avait dit, vous m'embêtez, je fais ce que je veux, on mettra ces insignes. Mais les Juifs étaient prêts à donner leur vie. Il y avait une manifestation, ils s'étaient couchés dans les rues avec une lame sur le cou, disant qu'ils étaient prêts à mourir s'ils ne changeaient pas sa loi. Et donc, sous la pression de la foule, on va voir que c'était un homme très influençable parce qu'il avait peur de l'homme. Et qu'il était très intéressé par sa propre situation, il avait dû capituler. Et à un autre moment, il avait besoin de faire arriver de l'eau à Jérusalem. Et pour ne pas dépenser les impôts romains, il avait eu la bonne idée d'utiliser l'argent du temple qui était normalement corban, c'est-à-dire réservé à l'usage culturel, spirituel, et ça aussi, ça n'avait pas mis en faveur avec les Juifs. Donc, il y avait une grande animosité entre lui et les responsables religieux qui veulent mettre à mort Jésus-Christ. D'ailleurs, s'il était là, à Jérusalem, c'est parce qu'il craignait. Normalement, sa résidence était sur la côte à Césarée Philippi, et il aurait préféré être là-bas tranquille, mais il savait qu'il valait mieux pour sa peau, pour son poste, qu'il soit là et qu'il puisse régler les problèmes qui pourraient apparaître. C'est un peu comme s'il avait ses quarts de CRS sur place. Il avait ses soldats qui étaient là et il était très inquiet. Et les chefs juifs, verset 2, amènent Jésus en l'accusant. On se souvient au chapitre 22, on l'a rappelé, ils le condamnaient à mort pour un blasphème, parce qu'il avait dit être le fils de Dieu, Dieu le Fils. Ça aussi, c'est quelque chose à pointer lorsque des gens viennent à vous en vous disant que Jésus n'a jamais dit être Dieu. Les Juifs de l'époque qui comprenaient mieux que quiconque ce que disait la Bible, les références que faisait Jésus, savaient qu'en fait Jésus disait être le Messie, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Verset 69 du chapitre précédent. Désormais, le Fils de l'homme, avait dit Jésus à ceux qui l'accusaient, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu? Et il leur répondit, c'est vous qui le dites. Vous avez raison, je le suis. Alors il dit, qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Alors ils viennent de condamner Jésus pour blasphème. Et de quoi accuse-t-il Jésus devant le représentant romain? Il l'accuse de choses qui n'ont rien à voir avec le blasphème. Et là, ce triste épisode de la passion de Jésus-Christ, de ce déni de justice, de cette parodie de justice est très évident. On a déjà dit qu'il ne devait pas juger la nuit. On ne devait pas rendre de jugement la nuit. Ils avaient déjà fait ça la nuit. Ils amènent Jésus le matin de bonne heure, entre 6h et 9h, ça se passe. Et sachant que le représentant romain se moquera bien de savoir que quelqu'un blasphème ou non contre leur fameux Dieu unique, alors que lui, il avait tout un tas de. Dans la religion romaine, c'était des idoles. Pour lui, ça ne représentait rien du tout. Et Ils savaient qu'ils ne seraient pas sensibles. Par contre, ils avaient leur petite idée sur ce qui pouvait le faire réagir. Encore une fois, on l'a un peu évoqué, c'était le fait qu'il, cet homme pouvait causer du désordre et menacer l'Empire romain. Alors, ils lui disent qu'il incitait la nation à la révolte. En fait, on sait que ça n'a jamais été le cas. Jésus a parlé de son royaume, mais il n'a jamais invité les Juifs à s'attaquer à Rome. C'était une activité réservée à ce qu'on appelait les zélotes, des terroristes nationalistes qui voulaient faire tomber la puissance romaine, ou du moins se libérer de ce joug, un peu à la façon des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils attaquaient, ils commettaient des crimes pour faire peur à l'Empire romain. Mais ce n'était pas à l'annonce de Jésus. Jésus disait, et il accuse aussi d'inciter les gens à ne pas payer l'impôt à César. Or, on a lu il n'y a pas très longtemps dans le même évangile de Luc qu'au contraire, il disait « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » pour dire que les choses matérielles, c'était bien et normal de payer l'impôt parce qu'il y avait l'effigie de César sur la monnaie qui leur appartenait. Donc, payer un impôt, une espèce de dîme, c'était tout à fait justifié. Par contre, eux qui avaient, tous les hommes ont l'empreinte de Dieu sur eux, devaient rendre ce qui est à Dieu, c'est-à-dire se soucier de leur vie spirituelle, se tourner vers un Dieu qui aime les hommes. Et Jésus n'avait aucun problème à dissocier les deux, le matériel et le spirituel, même si on sait que les deux doivent être unis dans nos vies, ce n'est pas une dichotomie, mais cette accusation d'inciter le peuple à ne pas payer l'impôt, c'était un pur mensonge. Et puis il disait qu'il se disait lui-même Christ, le roi. Alors c'est vrai que Jésus disait être le Messie, le Christ, mais ce n'était pas dans le sens où il allait faire tomber l'Empire romain et prendre le pouvoir à Jérusalem contre l'envahisseur romain. C'était un peu l'attente du peuple juif. C'est pour ça que certains l'ont laissé tomber. Ils voyaient qu'en fait, il n'était pas en mesure où il n'était pas animé de l'intention de prendre le pouvoir terrestre à Jérusalem. Mais ils savent qu'en lui disant qu'il prétend être le roi, dans l'esprit de Pilate, il ferait l'analogie ou le rapprochement avec si c'est lui qui est le roi, qu'est-ce que va devenir l'empereur? J'ai intérêt à m'occuper de ce cas. Donc trois fausses accusations, mais Pilate va interroger Jésus. Donc il y a les Juifs là qui sont là en train d'essayer de le manipuler, et lui va voir Jésus. C'est très théâtral, c'est une mise en scène. Et donc il lui dit, tu es le roi des Juifs? Ce qui est toujours difficile, c'est de savoir exactement le ton qui est utilisé lorsqu'on voit des paroles prononcées dans la Bible, rapportées par texte, mais on n'a pas le MP3. Donc on ne sait pas si tu es le roi des Juifs ou tu es le roi des Juifs. Mais toujours est-il que Jésus lui dit, tu le dis, le roi des Juifs. Mais la réponse de Pilate devant cette réponse de Jésus, c'est de dire aux principaux sacrificateurs et à la foule, encore une fois le mot sacrificateur qui est un mot compliqué, c'est la faute à Louis II. C'est-à-dire, vous pouvez remplacer sacrificateur par prêtre. Et c'est le mot grec qui est utilisé, c'est le mot qui veut dire prêtre. Mais Louis II était tellement anti-catholique qu'il ne voulait surtout pas qu'on puisse confondre les prêtres de l'Ancien Testament avec les prêtres catholiques. Donc il a inventé ce terme des sacrificateurs, qui est un peu lourd et qui ne correspond pas au terme historique. Il leur dit, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Première fois qu'il le déclare innocent. Il ne voit pas. Autrement dit, l'idée que Il est à avoir peur de cet homme qui est déjà, qui a déjà été battu, qui a déjà été, qui n'a pas dormi, qui est fatigué, qui est peut-être déjà fouetté, qui on sait que il avait été frappé, on avait prononcé des blasphèmes. Il n'est pas impressionné par la stature royale de la personne. Il dit bon, mais il imagine un peu comme des fois dans les asiles de fous, on dit qu'il y a des gens qui se promènent en mettant la main dans leur veste en disant je suis Napoléon, je suis le roi des Juifs. Il a dit bon, mais il n'a rien fait de mal, laissez-le, on peut le laisser. Mais ils insistèrent et dirent, il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'à ici. C'est le week-end de Pâques, comme on dirait. Pilate n'a pas envie d'être embêté par cette histoire. Peut-être à dessein, les chefs religieux font mention de la Galilée, parce que la Galilée avait la réputation d'être l'endroit d'où venaient les révoltes contre l'autorité romaine. Et puis, lorsqu'il mentionne la Galilée, peut-être qu'il pense, ah, il y a peut-être quelque chose de sérieux, mais surtout, il se dit, ah, c'est pas, il y a quelqu'un d'autre dans cette juridiction, je vais me débarrasser de l'affaire et je vais pouvoir reprendre le week-end tranquillement. Il demande donc s'il vérifie qu'il est bien galiléen, et ayant appris qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Hérode, on a dit qu'en fait, et c'est vrai, son arbre généalogique, qui montre les parents, les enfants, les petits-enfants, etc., il ressemble plus à un poteau télégraphique qu'à un arbre. Parce qu'il est bien compliqué. Il y avait des tas de relations incestueuses, contre nature. Et il faut bien. C'est important de comprendre un peu la structure de la famille d'Hérode. On voit ici, il est question d'Hérode, et on se dit, ah tiens, c'est le même qui faisait chasser à la naissance, qui faisait chasser ou mettre à mort les enfants des Juifs au moment de la naissance de Jésus. Mais en fait, ça, il s'agissait d'Hérode le Grand, qui était de la dynastie de ce qu'on appelait les Asmonéens, et qui était à moitié, ou Idouméens, qui était à moitié juif seulement, et qui avait un grand talent de bâtisseur. C'est lui qui avait construit qui avait repris le temple et qui l'avait rendu. D'ailleurs, les travaux n'étaient pas encore finis lorsque Jésus a annoncé que ce temple serait détruit. Il avait aussi restaurer et agrandir la forteresse de Massada. Et lui, en fait, il avait eu au moins quatre femmes avec lesquelles il avait eu des enfants. Il avait Doris, il avait eu Antipâtre, il avait des Mariam qui avaient Aristobule et Alexandre comme enfants. Avec Maltas, il avait eu Hérode, Antipas et Archélaüs. Et le gars dont nous parlons aujourd'hui, c'est Hérode Antipas. Comment antipathique, Antipas. Il y avait un autre, le fils que Hérode le Grand avait eu avec une dénommée Cléopâtre, qui s'appelait Hérode ou Philippe II, le tétrarque, dont on parle par ailleurs. Et puis avec Marianne et Simon, il avait eu Hérode Philippe, le premier mari d'Hérodias. Et Hérodias, en fait, c'était un petit-fils d'Hérode le Grand. Et on se souvient de l'épisode où Jean-Baptiste avait repris cet Hérode qui avait pris, en fait, la femme de son frère, qui était en même temps sa nièce. Vous voyez le poteau télégraphique, là, ça se mélange dans tous les sens. Mais toujours est-il que Jean-Baptiste, qui était un homme qui n'avait pas peur des hommes, craignait seulement Dieu, avait dénoncé cela auprès de Hérode Agrippa et il avait Hérode Antipas, il avait été puni, ou plutôt sa compagne Hérodias l'avait pris en grippe parce qu'il leur disait ce que vous faites n'est pas légitime, c'est contre la loi. Et du coup, lorsque, à un moment, Hérode avait invité plutôt sa femme avait la fille de Hérodias, qui s'appelait, d'après la tradition, c'est pas dans le texte biblique, Salomé, avait dansé une danse très suggestive alors que Hérode faisait un festin. Il lui avait dit, tu danses si bien, je te donne tout ce que tu voudras jusqu'à la moitié de ton royaume. Des paroles qui rappelaient le livre d'Esther. Et là, la jeune femme Salomé avait été demandée à sa maman, qu'est-ce que je devrais demander? Et là, Hérodias s'était dit, c'est le moment ou jamais, je vais pouvoir me venger enfin de ce Jean-Baptiste qui me fait des leçons de morale. Tu lui demandes la tête de Jean-Baptiste sur un plateau d'argent, sur un plateau. Et là, Hérode, donc Antipas, n'avait pas pu refuser de faire couper la tête à cet homme qui l'interpellait. Il y avait une fascination de cet homme qui était pécheur pour cet homme qui était de toute évidence juste et qui suivait Dieu. Et c'est souvent le cas. Souvent, les gens, des fois les plus pervertis, peuvent être ceux qui sont. Parce que le contraste est tellement saisissant qu'ils peuvent être interpellés par des gens qui suivent Dieu, des gens qui aiment et qui servent le Seigneur. Ça doit nous permettre d'aborder n'importe qui avec le message de l'Évangile. Des fois, on se dit, il faut avoir été prisonnier pour parler de Jésus à un prisonnier. Non, c'est pas nécessaire. Le Seigneur est tout-puissant et il peut vous utiliser comme il l'entend. Et donc, cet Hérode, lorsqu'il voit Jésus, il a une grande joie, car depuis quelque temps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui et espérait lui voir faire quelques miracles. Donc, il avait été curieux de Jean-Baptiste, il est dit qu'il aimait bien l'entendre. C'est drôle, quelquefois, les gens aiment bien qu'on les reprenne, qu'on leur dise que ce qu'ils font n'est pas bien. Parce que quelquefois, ça parle à leur âme et à leur conscience. Ça leur donne l'espoir que peut-être s'ils prennent de bonnes résolutions, ils vont arriver à se défaire de leurs problèmes. Ils désiraient le voir parce qu'on parlait beaucoup de Jésus. C'est lui qui. Et on en parlait surtout parce que. Il était celui qui faisait des miracles, qui pouvait guérir, celui qui pouvait nourrir une foule de 5 000 personnes avec quelques pains et quelques poissons, celui qui avait transformé de l'eau en vin. Et il est dit qu'il l'interroge assez longuement, c'est-à-dire qu'il lui pose des questions, il lui demande ce qu'il fait, on a des détails par les autres évangiles qui parlent tous bien sûr de cette période de la vie de Jésus et de sa mort, de sa résurrection. Mais Jésus ne répond rien. Et pourquoi est-ce que Jésus ne répond rien? Parce qu'en fait, Dieu le Père n'a plus rien à dire à Hérode. Il lui avait déjà envoyé Jean-Baptiste, Mais Hérode s'était endurci dans son péché et sa conscience était devenue comme cautérisée. La conscience, c'est quelque chose que Dieu nous met en nous, une chose très précieuse. C'est un instrument de précision. Lorsque notre conscience fonctionne bien, elle va nous signaler des fois des petites déviations qu'on n'aurait pas remarquées s'il n'y avait pas ce détecteur inspiré par Dieu dans nos cœurs, dans nos esprits. Mais Paul parlait beaucoup, on en parle dans toute la parole, mais dans 1 Timothée, Paul expliquait que le but de son enseignement, de cette recommandation qu'il donnait en enseignant la parole de Dieu, c'était l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sans hypocrisie. Une bonne conscience, une conscience pure. Il invite Timothée à garder la foi et une bonne conscience. Il le met en garde. Au verset 2 du chapitre 4 de 1 Timothée, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux discours marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Et cette expression d'avoir notre conscience marqué au fer rouge. Vous êtes déjà peut-être brûlé un doigt en touchant une casserole chaude ou un poêle qui vous a brûlé la peau. Et si la brûlure n'est pas trop grave, la sensibilité va revenir. Mais pendant un temps, vous touchez et vous ne sentez rien. On explique que c'est le problème de la lèpre, c'est qu'elle insensibilise les extrémités de nos membres, si bien qu'on peut marcher pieds nus et se couper le pied sans rien sentir. La conscience est une chose vitale. Mais on pourrait dire, en utilisant le langage des supermarchés d'aujourd'hui, que la conscience, c'est une denrée périssable. Si on ne la garde pas active et sensible, et qu'on ne l'utilise pas, et surtout si on la viole, c'est un peu comme si on la cautérise. Elle sert plus à rien, elle est bonne à jeter. Et cette conscience, Hérode l'avait brûlée. Et donc, Jésus qui faisait tout ce que le Père lui disait de faire, et seulement ce que le Père lui disait de faire, ne répondait rien à Hérode. On peut imaginer que si j'étais injustement accusé, ça je n'ai pas à l'imaginer, je le sais parce que je l'ai déjà fait, je me défendrais avec véhémence. Mais là, Jésus, comme un agneau de Ésaïe 53 qui reste silencieux devant ceux qui le mettent à mort, il ne répond rien. Et on imagine que ça doit rendre Hérode d'autant plus furieux qu'il voudrait voir quelque chose se passer. Et en fait, Hérode, il représente beaucoup l'homme contemporain, qui, s'il est intéressé par Dieu, c'est surtout pour voir Dieu faire des miracles. C'est lorsqu'il y a un cancer dans la famille, on prie Dieu, on voudrait qu'il fasse un miracle. Ou alors on serait curieux de voir des choses spectaculaires se passer. Mais est-ce qu'on recherche vraiment, depuis notre cœur intérieur, de notre intimité profonde, avoir une relation avec un Dieu qui veut cette relation? Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et malheureusement, même dans le monde chrétien, on sait qu'il y a des gens qui courent vers le dernier, j'allais dire, spectacle, mais derrière, qui courent après la dernière nouveauté. Waouh ! Il paraît que dans cette église ou dans ce congrès, dans ce palais des congrès, l'esprit est tellement présent qu'il y a des chiens ils aboient comme des chiens, ils se roulent par terre. Alléluia ! Oh, la puissance de Dieu ! Et sans aller jusqu'à ces extrêmes, est-ce que moi, dans ma vie, est-ce que je me tourne vers le Seigneur seulement lorsque j'ai besoin d'un miracle, lorsque j'ai besoin de voir son action, ou est-ce que je suis prêt à le rencontrer, quelles que soient mes circonstances, même lorsque je suis dans la douleur, lorsque je suis dans le deuil, dans la maladie, sachant qu'il peut bien sûr faire des miracles, il peut intervenir, mais est-ce que j'ai ce désir de le voir tel qu'il est, de le connaître tel qu'il est, ou de le voir juste comme quelqu'un qui fait son one-man show, son one-god show, comme un Gad Elmaleh qui nous fait bien rire, ou un autre artiste qui nous émeut ou qui nous enthousiasme. C'était le cas de Hérode. Il n'avait aucun désir de remettre sa vie en question. Il voulait juste, allez, étonnez-moi, Benoît. Il y a une chanson qui disait ça. Faites-moi quelque chose. Un peu comme un clown ou un magicien qui va faire disparaître une voiture devant nos yeux. Et pendant ce temps-là, il y a toujours un peu comme, je parlais de présentation théâtrale, c'est un peu comme les théâtres à l'antique. Il y a des chœurs. Là, on entend pendant ce temps-là, pendant que la conversation se passe ou ne se passe pas, c'est le monologue d'Hérode. Il y a les principaux sacrificateurs et les scribes qui étaient là et qui l'accusaient avec véhémence. Oh là là, oui, c'est un scandale, il est blasphémé, il ne fait pas les miracles, il ne parle même pas à notre roi. Il n'aimait pas Hérode. Il faut savoir qu'Hérode et Pilate n'étaient pas appréciés par le peuple juif, l'un comme l'autre. Beaucoup de juifs méprisaient Hérode parce qu'il n'était pas purement juif. Et il savait aussi qu'il avait une vie de patachon, qu'il avait fait n'importe quoi au niveau de la morale. Et même là, Hérode, à la fin, avec ses gardes, se met à se moquer de Jésus, à le traiter avec mépris. Il le recouvre d'un vêtement, d'un habit éclatant. C'était un vêtement blanc, pas le vêtement rouge des rois romains ou des généraux romains, mais au contraire l'habit d'un roi, et se moquer de lui. Et puis il le renvoie à Pilate. Parce qu'il n'a rien trouvé de condamnable lui non plus. Et là, il est dit que ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Ni l'un ni l'autre n'aimaient le Sanhédrin, ces autorités religieuses juives qui leur rendaient la vie un peu plus difficile, la vie difficile. Et en plus, ils n'aimaient pas spécialement ce Jésus qui ne parlait pas à l'un, que l'autre avait rencontré, qui ne l'impressionnait pas. Mais c'est souvent dans le cas où on se trouve un ennemi commun qu'on va devenir ami. C'est dommage d'attendre qu'il y ait besoin d'un ennemi commun. Je pense des fois que si on voyait des vaisseaux spatiaux arriver sur la planète, dans des soucoupes volantes vertes, par exemple, comme dans ces films de science-fiction, je parie que les djihadistes, les GI, les Marines, nos soldats, la Légion étrangère, on se mettrait tous ensemble, on aurait retrouvé un ennemi commun. Et là, ils sont devenus amis et ils vont essayer de travailler ensemble. Alors, lorsque on étudie un peu les trois autres évangiles, Matthieu 26, 27, Marc 15, Jean 18 et 19, on voit qu'il y a ces allers et retours entre les différentes autorités, le Sanhédrin, Pilate, Hérode. Pilate reçoit donc de nouveau, verset 13, Pilate convoqua les principaux sacrificateurs, les chefs et le peuple, et leur dit, il est encore une fois, il est innocent. Je l'ai interrogé devant vous, je n'ai pas trouvé coupable. Hérode non plus n'a pas trouvé coupable. Donc, verset 15, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Et la peine, les peines exercées par les, infligées par les Romains avaient toujours l'idée d'être un exemple aussi pour le peuple, pour dire si vous n'obéissez pas à la loi, voilà ce qui va vous arriver. Un peu comme quand vous voyez une voiture avec un papillon, vous allez voir le montant de l'amende. Par exemple, si vous garez sur la rue qui descend en semaine, le week-end, il y a une tolérance qui n'est pas une garantie. C'est le tarif, c'est 35 euros. Je vous dis ça, comme ça vous savez si, ce que ça peut vous coûter. Mais il y avait l'exemple, et donc, il est innocent aux yeux de Pilate, mais pour bonne mesure, il va dire, je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. Ça ne peut pas faire de mal à personne, pense-t-il. En fait, on sait que les châtiments, c'était la flagellation, et ça pouvait entraîner la mort de celui qui recevait la punition. Et il est dit au verset 17, c'est indiqué dans d'autres passages, là c'est entre parenthèses, ça veut dire que peut-être ce n'était pas dans le texte original, ou du moins il y a des manuscrits de Luc qui n'ont pas cette mention. La tradition, c'était qu'à la fête de la Pâque, on relâchait un prisonnier. Il n'y a pas très longtemps, lorsque le président de la République était élu, il avait le droit d'exercer son droit de grâce. Et il pouvait sortir des gens qui avaient été condamnés, ou alors il annulait les contraventions. Ouah ! Et le résultat des courses, c'est qu'avant les élections, on pouvait plus garer n'importe, on pouvait plus garer chez soi parce qu'il y avait des voitures qui étaient garées devant, on n'obéissait plus à la loi. Mais c'était la tradition, il s'était dit, visiblement, ce n'est pas un criminel endurci qui a du sang sur les mains, il avait du sang sur son dos et peut-être sur son visage déjà, mais je le relâcherai. C'était sans compter sur l'entêtement des chefs religieux qui n'en pouvaient plus de ce Jésus qui remettait en cause le statu quo religieux et surtout qu'il les critiquait ouvertement comme ils savaient le mériter, en leur montrant qu'ils n'étaient que des hypocrites. Et ils lui disent, non, fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Lui, c'était un émeutier, c'est quelqu'un qui avait été mis en prison pour un meurtre. Et on peut dire que la croix que Jésus va, sur laquelle il va périr, c'était sans doute la croix qui avait été préparée pour Barabbas. Entre parenthèses, on va y venir plus tard, mais Barabbas, c'est, vous connaissez sans doute, vous pouvez le trouver vous-même, ça veut dire fils du père. Bar, pas Bartaba, mais Barabbas, c'est Bar de fils de Abba. Abba, le père. Donc lui, c'était un espèce de ersatz, un faux fils du père. Et bien sûr, il avait un père, mais le terme de Jésus, lorsqu'il a dit « Je suis le fils de l'homme, je suis le fils de Dieu », il revendiquait clairement qu'il était lui le vrai fils du père. Et Pilate répète qu'il va il veut le relâcher, mais verset 21, il criait « Crucifie-le, crucifie-le ». Pilate leur dit pour la troisième fois « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort, je le lâcherai donc après l'avoir fait châtier. » En fait, Pilate, c'est intéressant, c'était l'homme qui voulait sauver le Sauveur. C'est ironique, parce qu'il n'a pas, On ne sait pas vraiment ce qu'il est devenu. J'en parlerai. Mais il leur a dit pour la troisième fois, « Je ne vois rien, je vais le relâcher. » Mais ils insistèrent à grands cris en demandant qu'il soit crucifié, et ce sont leurs cris qui l'emportent. Devant la foule, Pilate, qui est un homme qui a peur des hommes, parce qu'il sait que ça peut remettre en question son autorité et son poste surtout, et donc il va rendre un arrêt conforme à leur demande. Il relâcha celui qui avait été jeté en prison pour une émeute et pour un meurtre, et qu'il réclamait, mais il livra Jésus à leur volonté. C'est un peu terrible de penser que Jésus avait dit « pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite », que cette volonté de Dieu le Père qu'il aimait tant, elle passait par l'infâme volonté de ces chefs religieux qui voulaient tuer le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Messie, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. On parle souvent de cette foule qui aurait fait volte-face. Vous vous souvenez, c'était la même foule qui l'avait accueillie en disant « Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur » lorsqu'il était arrivé à Jérusalem, assis sur un ânon, remplissant les prophéties de Zacharie et de bien d'autres. En fait, j'aime bien la remarque que rien ne dit que ce soit exactement la même foule. La foule qu'il avait accueillie, c'était sans doute des Galiléens qui le connaissaient, qui étaient descendus, qui l'avaient suivi jusqu'à Jérusalem pour la Pâque. Et là, entre 6h et 9h, c'était peut-être des gens qui étaient à la solde des chefs religieux. Et les amis n'étaient peut-être pas encore levés, ou n'avaient trop de chagrin la veille et qu'ils n'étaient pas encore... Mais c'est juste une supposition, mais... On sait que la foule change d'avis facilement et que c'est pour ça que c'est très vain de chercher la gloire des hommes. Un jour, on vous élit avec 60% et quelques mois plus tard, c'est 20% de popularité. Pas d'allusion, c'est un fait récurrent. Donc, il n'y a pas. Et donc. Il est livré à leur volonté. Et on verra, on va s'arrêter là parce que le reste du texte est important. On n'a plus le temps. Bien sûr, quand on lit ce passage, on apprend des choses sur les faits historiques, comment ça s'est passé. Et là, encore une fois, on ne fait pas ça de façon exhaustive. Il faudrait faire des citations des quatre évangiles et d'essayer de faire une chronologie, ce qui est un bon exercice, mais ce n'est pas l'objet de notre étude ce matin. C'est de voir ce qu'on apprend d'abord sur l'homme et sur Dieu. Et là, on voit l'amour infini d'un Dieu qui vient s'incarner et qui vient mourir pour nos péchés. On le verra encore plus avant lorsque on l'a évoqué le jour de Pâques en rappelant les 7 points du sermon sur la croix dont on a parlé. Jésus est prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême. Et on a rappelé que la souffrance physique, c'est quelque chose sur lequel on insiste, sur lequel les films, les représentations peuvent insister, parce que on peut représenter du sang qui coule, on peut représenter des fouets dont les lanières se terminent par des morceaux d'os ou de métal qui déchirent la peau, qui rentrent dans l'épiderme, le sous-épiderme, la graisse, qui mettent à nu peut-être certains os. Je ne veux pas être plus graphique qu'il ne faut. Mais cette souffrance physique, elle n'est pas propre malheureusement à Jésus lui-même. La souffrance terrible qu'il a endurée, c'est de devenir péché à ma place. de porter tous les péchés du monde et d'être privé de l'intimité qu'il avait eue de toute éternité avec le Père. Et on l'a dit, c'est pour ça qu'il disait, si cette coupe peut passer mes lèvres, s'il y a un autre moyen de racheter ces gens que nous aimons, qu'il en soit ainsi. Mais il a dû aller, il a dû obéir jusqu'au sang, jusqu'à la... Et surtout, recevoir sur lui l'infinie noirceur de nos péchés. Tous les crimes, les corruptions, les viols, les maltraitances, les mensonges, les violences que l'homme, dont l'homme est capable, tout ça, il l'a pris sur lui. Et la punition, le jugement est tombé sur lui, afin que nous puissions être libres. Mais encore une fois, c'est seulement si nous acceptons ce qu'il nous offre, que nous sommes au bénéfice de ce sacrifice. Et la plupart de nos contemporains ne sont pas au courant de la proposition qui est faite par Dieu. C'est pour ça que l'Église a une grande responsabilité pour annoncer la parole, pour évangéliser, pour enseigner, pour prêcher. Dieu a encore un peuple dans cette région, dans cette ville. Il veut que nous soyons, il veut nous utiliser pour les appeler. On sait que, on terminera avec cette idée, c'est que sur la croix, Jésus était entouré par deux malfaiteurs en réponse à la, en application de la prophétie d'Ésaïe 53. Il était entouré par les malfaiteurs. Et on sait qu'un de ces malfaiteurs s'est tourné vers lui dans la foi et a été sauvé. Par contre, l'autre, jusqu'au bout, a continué de se moquer, de l'insulter. Et il est mort dans ses péchés. Quelqu'un a dit très justement, un seul a été sauvé afin que personne ne désespère. Le salut est ouvert à tous. Si vous dites, ah, j'aimerais tant être sauvé, le salut est ouvert. Simplement croyez à ce que Jésus a fait pour vous, mettez votre confiance en lui, il va venir dans votre cœur. Il frappe à la porte de votre cœur, mais il va venir. Et puis en fait, un seulement a été sauvé afin que personne ne présume. Ne présume quoi ? Ne présume qu'on ira tous au paradis. Malheureusement, c'est souvent le concept des gens qui nous entourent. D'abord le paradis, la vie après la mort, Dieu, ça n'existe pas. Mais si jamais, on sait qu'on nous a dit que Dieu est bon, donc non. Dieu est juste et Dieu est saint et Dieu nous offre le salut, mais ne méprisons pas ce salut. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce que tu as fait à la croix, comment tu t'es humilié, comme nous dit Paul dans Philippiens, jusqu'à t'incarner en homme, revêtir un costume d'homme et devenir vraiment un homme à part entière qui a souffert la plus infâme des morts pour notre salut. Seigneur, aide-nous à être toujours émerveillés de ce que tu as fait, Seigneur. Pardonne-nous lorsque la répétition de la lecture de ces passages ou de cette passion du Christ peut nous rendre insensibles, peut cautériser nos âmes, peut-être nos consciences, Seigneur, aide-nous à toujours vibrer devant l'incroyable amour dont tu as fait preuve jusqu'au bout, Seigneur. Seigneur, je te remercie parce que tu es tout puissant aujourd'hui encore pour sauver les âmes, Seigneur. Si parmi nous, il y en a qui n'ont jamais fait cette démarche de venir à Jésus pour lui demander pardon de leurs péchés et de faire de lui leur maître, leur seigneur, leur sauveur, vous pouvez le faire maintenant. Je vous invite à prier en silence quelque chose, une prière de, dans laquelle vous, vous lui dites, vous pouvez répéter en silence après moi, « Seigneur, je sais que je suis un pécheur qui mérite la punition ultime, mais Seigneur, j'ai besoin de ton pardon. Je suis désolé pour mes péchés passés et je te demande de me pardonner. Seigneur, je crois que tu es vraiment mort sur cette croix pour mes péchés et que tu es ressuscité d'entre les morts. Je t'ouvre maintenant la porte de mon cœur. Je t'invite à venir dans ma vie. Je réalise que je ne peux rien faire pour mériter ce salut. Je dépends entièrement de toi. Et je mets toute ma foi, toute ma confiance en toi pour la vie éternelle. Pas sur mes œuvres, mes bonnes actions. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Merci d'entendre ma prière et d'y répondre et de me donner la vie éternelle. Amen.